autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? À quoi ça sert ?
Igor Strauss.
Avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous interroger aujourd'hui sur l'histoire des codes secrets. Par jeu, par nécessité guerrière ou par amour, l'homme a toujours trouvé le moyen de rendre secrètes ses communications. Mais comment est née cette science du secret qu'on appelle la cryptologie ? Il y a eu une multitude de codes secrets à travers l'histoire, mais quels étaient les plus efficaces ? Certains de ces codes sont-ils encore secrets ? Regardez, l'évolution de la cryptologie est aussi le moyen de mesurer celle des connaissances au fil des siècles. Plus les échanges d'informations se sont banalisés, plus les systèmes de codage se sont diversifiés. Mais peut-on pour autant parler d'une science universelle ? Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'informatique, est-on entré dans une nouvelle ère de la cryptologie ? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Philippe Guillot, mathématicien, maître de conférences à l'université Paris 8, ancien chef du laboratoire de cryptologie de la société Thalès, autour de la question « Qu'est-ce que la cryptologie révèle de nos sociétés ?» Bonjour. Bienvenue. Philippe Guillot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, afin que tout soit clair pour nos auditeurs, je vous propose de commencer cette émission en précisant les termes. Alors, la cryptologie, c'est la science du secret, mais on parle également de cryptographie et de cryptanalyse. Expliquez-nous ces termes.
Oui, alors, je dirais d'abord que la cryptologie, c'est plutôt l'art du secret.
L'art, et pas la science.
Il y a quand même une composante qui fait partie de la science, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc la cryptologie, c'est finalement la réunion de deux disciplines. La cryptographie, qui consiste à rendre incompréhensible un message écrit, souvent écrit, maintenant de plus en plus, c'est de l'information abstraite, qui peut être
des mathématiques,
qui peut être de la musique, de l'image, etc. Donc la cryptographie, qui consiste à rendre secret un message écrit, et la cryptanalyse, qui consiste à, pour l'adversaire, à essayer de retrouver le sens caché derrière ce qu'on a voulu camoufler. Et la réunion de ces deux disciplines, cryptographie et cryptanalyse, c'est ce qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle la cryptologie.
Donc les cryptographes conçoivent les codes et les cryptanalystes les brisent ou les cassent.
Exactement.
Alors comment est née cette discipline, la cryptologie ? C'est extrêmement ancien.
C'est extrêmement ancien, et d'ailleurs la question se pose, à partir de quand est-ce que ça s'est constitué en tant que discipline ? Bon, la cryptographie, c'est-à-dire l'art de camoufler les écritures... Bon, ça peut dater, on peut le dater en gros de l'apparition de l'écriture. On a retrouvé des traces de modifications intentionnelles de messages écrits sur des documents écrits sur les tombes de certains rois égyptiens. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que pour autant c'était une discipline ? J'en suis pas tout à fait sûr. Il a fallu attendre, en fait, le monde arabe pour qu'on voit apparaître les premiers traités qui parlaient de cryptographie, systématiquement de procédés. À l'époque, on disait pas cryptographie, on disait l'obscurcissement du texte, des procédés, des divers procédés d'obscurcissement et des divers procédés pour lever l'obscurcissement. Et donc, les premiers à avoir écrit des traités sur ce sujet, donc on peut dater cette discipline-là, c'est le monde arabe à partir du 8e-9e siècle après Jésus-Christ.
Donc la cryptologie qui naît avec l'écriture, est-ce à dire que les sociétés orales n'utilisent pas la cryptologie ? On peut affirmer cette...
Par définition, on pourrait dire oui. La cryptographie, dans le terme graphie,
il y a l'écriture.
Mais ça n'empêche, il y a quand même des modifications intentionnelles de la langue parlée. On pense à l'argot. Bon, l'argot, c'est une langue. On peut dire que c'est un peu une langue. Donc chaque mot a son correspondant. C'est comme on pourrait dire une traduction. Mais par contre, il y a des procédés qui consistent à modifier avec des règles la structure des mots, de manière à ce que ça soit accessible au langage parlé. Je pense par exemple au javanais, où on rajoute une syllabe entre chaque syllabe. Je pense au verlan, où on échange les syllabes.
Et
je pense
même... Le verlan, le langage des jeunes d'aujourd'hui.
Langage des jeunes d'aujourd'hui et même d'hier. Parce que moi, j'ai parlé verlan dans mes cours de récréation.
Ah, vous aussi.
mais aussi maintenant, il y a même des procédés beaucoup plus subtils, qui consistent à prononcer... à l'envers de la façon dont ça s'écrit. Bon, ça, moi, je suis pas assez entraîné pour pratiquer les choses, mais mes enfants parlaient de mop à la place de pomme, par exemple. Donc ça, c'est une façon de procéder qu'on pourrait dire systématique et qui est liée à la langue orale.
Il y a le rep à la place du père, voilà. Je le savais aussi, ça. Quel est le plus ancien code secret que l'on connaisse, Philippe Guillot ?
Les codes secrets, bon, datent de l'Antiquité. On a parlé du carré de Polybe, par exemple, hein, qui consiste à un carré de 25 sur 25 où chaque lettre est repérée par deux coordonnées. Les procédés, faut distinguer les codes et les procédés, hein, parce que avant qu'apparaissent des codes, je pense que beaucoup de personnes connaissent le code de César où on change une lettre par une autre.
Mais ça, on va y revenir justement. Vous allez nous l'expliquer.
Avant de parler de codes, il y avait des procédés de camouflage qui étaient pas forcément des codes. Hein, je pense par exemple à la cithale grecque, lacédémonienne de Sparte, dont on parle même dès le 7e siècle avant Jésus-Christ.
Vous en avez une avec vous ?
Oui,
alors,
j'en ai une avec
je
moi.
Vous coupe parce qu'on va y revenir. Vous allez nous l'expliquer plus largement. Juste, vous séparez l'histoire de la cryptologie en trois grandes périodes. Pouvez-vous nous citer ces trois grandes périodes et puis ensuite on va les détailler, bien évidemment.
Oui. Donc la première période, c'est la période qui remonte à la nuit des temps, donc à l'apparition de l'écriture, et qui consiste à cacher un message. Hein. Donc là, le problème, c'est deux interlocuteurs qui veulent écrire de manière confidentielle et discrète, et le message est transporté par un messager. Donc, par exemple, un cavalier qui porte le message dans sa sacoche, et au cours de son transport, le message il peut être intercepté, il peut être lu, etc. Et ça, on ne le veut pas. Et donc, on a vraiment la cryptologie du message consiste à cacher, à manipuler la langue,
On s'intéresse au message, en fait.
On s'intéresse au message.
Le but, c'est de camoufler un message.
C'est de camoufler un message. Et ce camouflage du message, cette problématique-là, elle est même assez récente. Hein. Par exemple, au 19e siècle, dans les Agony Column du Time, il y avait la haute société anglaise qui communiquait d'une personne à l'autre avec des codes secrets. Hein, ils communiquaient des messages secrets.
Voilà, vient ensuite une deuxième période.
La deuxième période, elle vient à partir du 19e siècle, donc c'est parallèle à la révolution industrielle, et c'est lié à l'apparition de nouveaux systèmes de communication. Donc en particulier du télégraphe, qui est né avec le télégraphe de Chappe, et qui est ensuite avec le télégraphe électrique, puis le téléphone, puis la TSF, enfin tous ces moyens de communication, où là, la problématique n'était plus celle de transférer un message d'une personne à un autre, mais de protéger le système de communication. Donc ça implique aussi des procédés différents, des façons de penser différentes, de façon de penser la cryptographie différente.
Et puis une troisième personne avec l'avènement évidemment de l'informatique, mais rassurez-vous, on va y revenir tout au long de cette émission autour de la question qu'est-ce que la cryptologie révèle de nos sociétés. Première piste de réflexion avec le mix pas du tout secret de Guillaume Ploquin.
Approchez mesdames et messieurs, approchez, n'ayez pas peur. Venez découvrir le mystère des clés publiques. Un sujet qui vous concerne tous et sur lequel mon devoir est de vous informer.
Sésame, ouvre-toi.
Les hiéroglyphes. Depuis des siècles, des savants s'efforçaient d'enlever le secret. Ils avaient tous échoué.
Alors, on casse un code de la même façon qu'on casse une porte d'entrée, c'est parce qu'on veut accéder à l'information qu'il y a derrière.
Tenez, vous, par exemple, mademoiselle, vous avez déjà envoyé des courriers électroniques sur Internet, peut-être même des mots d'amour, et vous n'avez pas envie que tout le monde puisse les lire. C'est bien normal.
Alors, Chappe avait travaillé sur cette problématique de la transmission de messages secrets.
Si tu mets une porte blindée, mais qu'à côté de ça, t'as un mur en carton-pâte, les gens vont passer par le mur et vont pas casser ta porte.
Et puis également, il avait réfléchi à ce que nous appellerions aujourd'hui le hard, c'est-à-dire le matériel. C'est intéressant, on a la rencontre entre le soft, le logiciel, et le hard, le matériel.
Est-ce que dans le cryptage, il n'y a pas un rêve d'enfant, le rêve de déguiser les choses ?
J'en profite pour répondre à une question que vous êtes chaque jour très nombreux à me poser. Comment faire pour retenir les quatre chiffres qui constituent le code secret de ma carte bancaire.
Et est-ce que finalement, dans un monde qu'on voudrait entièrement clarifié, prévisible, un grand monde de clarté permanente des néons H24, il n'y a pas quand même l'envie d'un peu d'ombre ?
C'est un problème, un vrai problème pour tout le monde. Alors voici une astuce très précieuse que je vous donne. Composez une phrase de quatre mots, chaque mot ayant un nombre de lettres correspondant à chaque chiffre de votre code secret, et retenez cette phrase.
Un secret n'est bien partagé que par deux personnes dont l'une des deux est morte. Ah, c'est la seule garantie que tu peux avoir que ton secret est sûr.
Philippe Guillot, vous voulez réagir car ce mix est extrêmement riche, m'avez-vous dit.
Ah oui, ce mix est extrêmement riche. Il y a tous les éléments de la cryptographie moderne derrière. Il y a donc la distinction entre le hard et le soft. Donc là, on dirait plutôt l'aspect mathématique du code et l'aspect recherché à travers les attaques physiques qui sont développées aujourd'hui. On essaye d'extraire, par exemple, des éléments secrets des cartes bancaires en observant la consommation. Il y a aussi le côté humain. Hein, c'est-à-dire que comment retenir le code secret de sa carte bleue et donc effectivement...
Question que tout le monde se pose devant le distributeur, évidemment.
Ouais, avec la réponse très drôle de François Rollin. Donc, y a l'aspect humain, hein, c'est extrêmement riche par rapport à ce qui est la cryptographie, par rapport à ce qu'est la cryptographie aujourd'hui.
Alors revenons sur cette première phase. La cryptologie donc est surtout liée au début à l'art de la guerre et du renseignement. Vous parliez de César, au début c'est dans une perspective militaire.
Non.
Non,
je suis désolé. La citale de Sparte était clairement, d'après les historiens, présentée dans un contexte de campagne militaire. César, lui, communiquait avec son code pour ses affaires privées, avec son intendant. C'est pas dans ses campagnes militaires. Dans ses campagnes militaires, il utilisait un autre système, qui est aussi un système de substitution alphabétique. On change une lettre par une autre, mais il changeait simplement les caractères latins par les lettres grecques. Et il cite lui-même ce procédé-là dans la guerre des Gaules. Donc c'est une source une source directe. Il n'y a pas de raison de remettre en question cette source-là. Mais c'est vrai aussi que la cryptographie s'est développée dans un contexte militaire. On pense par exemple pendant les guerres de religion, la cryptographie est beaucoup intervenue. En particulier, il y a des cryptanalyses célèbres. François Viette, par exemple, qui était un des pères de l'algèbre, qui est intervenu beaucoup pour cryptanalyser les lettres de la Ligue catholique pendant les guerres de religion, qui était le décrypteur d'Henri IV.
Alors, vous nous parlez de la skittle, mais ça reste un terme flou pour nos auditeurs. Vous en avez apporté une avec vous. Très brièvement, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Il s'agit d'un bout de bois, tout simplement. Autour duquel on enroule une lanière sur lesquelles sont inscrites des lettres. Il faut que le messager à qui on veut faire parvenir ce message ait le même bout de bois du même diamètre et que ça permet de lire le message, c'est ça ? Est-ce que j'ai bien décrit la skittle ?
Exactement, c'est ça, c'est un bâton autour duquel on entoure une lanière de parchemin en joignant les bords d'une manière très précise et on écrit. Voilà, on écrit transversalement sur le parchemin et ensuite on déroule et on s'en sert comme ceinture ou comme ornement, voilà, et il est transporté, et celui qui reçoit, celui qui observe ce parchemin voit des fragments de lettres, des lettres cassées, perd la cohérence du message, et par contre le destinataire, un général ou un magistrat de la cité, entoure le parchemin sur un bâton exactement du même diamètre et reconstitue le message.
Radio France Internationale.
Derrière les portes du Louvre se trouve le Saint-Grouve. À 40 pas de la Joconde, il y a une flèche au stylo rouge. Il faut s'y faufiler de nuit, si possible d'un passe-move, ou que le gardien te couvre, sinon c'est l'alerte rouge. On nous cache des choses, depuis Adam et Ève, le lièvre et la tortue, Paris sur le lièvre. Le vrai, le faux, le vraiment faux, le vrai, c'est faux. C'est vraiment le pogo de la théorie du complot. Certains avaient des allumettes pendant la guerre du feu. Le copain d'une copine a côtoyé Sophie Neveu. Y'a jamais eu personne qui a mis le pied sur la lune. On dit que c'est Edith Piaf qui a écrit mon truc en plume. On dit que sur notre planète les petits hommes verront la télé et qu'ils sont fascinés par le JT de Jean-Claude Bourré. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Des tas de secrets d'État sont là devant toi. Un soir dans une ruelle, un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant
Pompidou.
Le Dalai Lama, Serge Lama, Alain Delon sont partis au Tibet pour leur chanter la Madelon. On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, qui ont bu du jus de coco, qu'ils ont coupé au coup. Juste parce qu'il a parlé du monstre de Roswell, l'armée américaine s'est séparée de Jacques Pradel. Tout se mélange dans ma tête depuis l'eau. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'eau. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude.
Da Vinci Claude, MC Solar sur RFI, autour de la question « Qu'est-ce que la cryptologie révèle de nos sociétés ?» Philippe Guillot, quelles sont les civilisations qui se servent le plus de la cryptologie ? Alors, elles sont nombreuses, hein, les Romains, les Grecs, les Chinois, les Arabes, mais est-ce qu'une de ces civilisations en a particulièrement fait usage ?
La civilisation d'aujourd'hui. C'est clair qu'il y a un.
Oui, mais là, je vais remonter dans cette première phase. Ouais. Vous anticipez, là, Philippe Guillot.
Alors, avant, c'est difficile de placer la cryptologie en termes d'utilisation par une civilisation institutionnalisée en tant que. Au niveau des États. C'est clair que la cryptologie révèle. Sur la nature des sociétés qui les utilisent. Faut évidemment que ça soit une société qui a de l'écrit, donc c'est un camouflage des faut un certain niveau d'alphabétisation aussi de la population parce que au départ le fait d'écrire était déjà quelque chose de mystérieux et d'inconnu pour la plupart. Donc il fallait une certaine alphabétisation de la population pour utiliser la cryptologie. Et il fallait aussi avoir des secrets à transmettre, donc aussi un certain niveau de civilisation.
Voilà. Alors, on parlait de codes secrets tout simples, comme les anagrammes, par exemple, que tout le monde connaît. Est-ce que les anagrammes sont de vrais codes secrets? Est-ce qu'ils ont été utilisés à travers l'histoire pour cacher des informations?
Oui, on peut dire ça. Bien que le terme anagramme, ça soit pas vraiment le terme, il est renvoyé à un jeu littéraire où on s'amuse à changer l'ordre des lettres dans un mot.
Mais pour en créer un autre.
Pour en créer un autre. Et en particulier, ce procédé de créer un mot qui a un sens à partir d'un autre mot qui a un sens en inversant les lettres, c'est un jeu littéraire qui a été très apprécié, en particulier décrit dans les premiers ouvrages de cryptologie arabe. Mais en cryptographie, on appelle plutôt ça un procédé de transposition. Et les procédés de transposition font partie des procédés de codage. Un procédé célèbre est cité par Jules Verne dans son roman Mathias Sandorf, où il utilise une grille, et cette grille permet, avec un code, une convention qui est liée aux trous qui sont dans la grille, au placement des trous dans la grille, de changer l'ordre des lettres d'un message.
Alors, au début de l'histoire de la cryptologie, quels sont les secrets qu'on a eu le plus de mal à déchiffrer donc dans cette première période de l'histoire? Pour expliquer la nécessité d'avoir de bons codes, hein, parce que on a eu des histoires tragiques qu'on pourrait citer après.
Oui. Bon, Jules César, je pense qu'il voulait cacher la gestion de ses biens privés. Donc, j'ai cité un exemple. Bon, c'est un exemple imaginaire où César prélève un tribut sur les populations vaincues pour s'enrichir personnellement. Donc, il doit transmettre à son intendant une gestion. Voilà, c'est ce type d'information qu'on peut imaginer qui a servi à Jules César, qui a nécessité que Jules César cache ces informations-là. Bon, après, par la suite, c'est vrai qu'il y a des secrets de palais qui ont nécessité de cacher des informations. Je pense, par exemple, à Marie Stuart, donc
ancienne reine d'Écosse et de France. D'Écosse.
Qui a été condamné à mort suite à une conspiration qui a été découverte malheureusement et qui dont à travers une cryptographie mal utilisée. On peut aussi citer par exemple Marie-Antoinette un peu plus récemment avec le comte von Fersen qui était l'organisateur de la fuite à Varennes du roi, avec qui il y a eu un échange chiffré de messages qu'on peut penser effectivement qu'ils étaient confidentiels.
C'est ça, je vous demandais si la cryptologie était liée à l'art de la guerre, vous me disiez pas du tout. Elle a aussi servi à cacher des relations amoureuses, hein, le comte de Fersen et Marie-Antoinette, voilà. C'était une relation amoureuse. Et Marie-Antoinette, d'ailleurs, s'en est aussi servie pour des raisons politiques. Vous citiez la fuite à Varennes qui échoue. Hein, s'en rappelle très bien. Oui, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment de multiples usages. Hein. Il y a aussi l'aspect ludique. Certains érudits s'en servent tout simplement par jeu.
Ah oui, c'est clair. On peut distinguer, d'ailleurs, dans l'histoire de la cryptologie, le travail des professionnels qui devaient décrypter des messages diplomatiques et puis le travail des amateurs qui s'amusaient à jouer, pour lesquels c'était un véritable jeu que de concevoir et de casser des codes. Donc, aussi bien dans la conception des codes les plus solides à la Renaissance sont le fruit d'acteurs qui ne sont pas des cryptologues professionnels, et aussi bien le fait de les casser plus tard, c'est aussi le fruit de gens qui se sont intéressés au codage par jeu.
Philippe Guillot, vous restez avec nous, on se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes après le Flash Info, autour de la question: qu'est-ce que la cryptologie révèle de nos sociétés? À tout de suite.